L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h04, ce dimanche 18 mars de l'année 1314. Nous sommes à Paris, au cœur même de la capitale. Sur l'île aux Juifs, tout près de l'île de la Cité, brûlera bientôt un condamné très particulier. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, va mourir. Cet ordre de chevalerie tricentenaire bientôt disparaîtra dans les flammes du brasier, non sans un dernier coup d'éclat. De Molay prépare un coup mûri et mis en place du fond de sa cellule miteuse. Il compte bien réussir à faire vaciller la couronne de France. Nous sommes le 18 mars 1314, il est 22h04, l'heure H de mon histoire. Le roi du pays, Philippe IV, dit le Bel, ou le roi de fer, c'est selon, s'installe à la tribune. En face de lui se dresse un bûcher si grand qu'il semble caresser la plante de pied de Dieu lui-même. La soirée est belle, les étoiles illuminent la voûte céleste et la foule se presse, compacte, nombreuse. L'homme qui va mourir ce soir est un sujet très influent. Il est âgé de 68 ou 69 ans, on ne sait pas très bien. Son apparence et sa barbe blanche rappellent que sa vie a été des plus chargées, une vie consacrée à la défense de la Terre Sainte et à la survie de son ordre de chevalerie, celui des Templiers. Ces soldats de Dieu, vêtus de blanc et marqués d'une croix rouge, sont en disgrâce depuis 7 ans. Pourquoi ? À vrai dire, le roi Philippe IV n'est pas très à l'aise avec cette question. Les Templiers ont été longtemps ses amis. À sa droite, le pape Clément V et son garde des Sceaux, Guillaume de Nogaret, bavassent. Le roi de France n'a jamais exclu la possibilité d'avoir été berné par ces deux-là sur la question relative au Temple. En effet, c'est en 1307 que la chute programmée de Jacques de Molay et des siens a été décidée. Depuis 1291 et la prise de Saint-Jean d'Acre par les Mamelouks, la Terre Sainte est dépourvue de toute présence chrétienne. Le pape Clément, installé en France depuis peu, a convoqué en 1306 les représentants des ordres à Paris. Les ordres ici, ce sont des Templiers, donc, mais aussi les Hospitaliers. Le pape souhaite une fusion des deux entités et une nouvelle croisade. De Molay, lui, attend ce moment depuis longtemps. Il lui présente un projet ambitieux où le pape mènerait lui-même une armée de plus de 20 000 hommes, du jamais vu pour l'époque. Une surpuissante force chrétienne venue reprendre sa position parmi les lieux saints d'Acre et de Jérusalem, en somme. Le plan est alléchant, mais devant le refus du grand maître des Templiers de fusionner les deux ordres, le pape se braque. Depuis quelques mois déjà, la couronne et lui préparent la chute de cet homme trop indépendant et beaucoup, beaucoup trop puissant. De son côté, Jacques de Molay n'aime pas non plus le roi Philippe, qui pourtant était un bon ami des Templiers. Il fut un temps. Tellement proche d'ailleurs que son ordre n'a pas hésité à lui prêter beaucoup, beaucoup d'argent. On parle d'une montagne d'or. Il n'a d'ailleurs jamais remboursé. De plus, la France est l'ennemi de l'Aragon, territoire allié de l'ordre. Enfin, le roi de France est considéré comme le responsable de la mort du pape Boniface VIII, qu'il ne pouvait contrôler comme il le souhaitait. L'agressivité de la couronne est insupportable. Arrêtés et torturés, Molay et les siens ont été condamnés à mort pour la plupart. Cette chute programmée et téléguidée forme la genèse de cette histoire. Mais voilà que Philippe le Bel est tiré de ses pensées par l'arrivée sur les lieux du prisonnier. Simplement habillé d'une chemise qui lui descend aux genoux, le vieil homme se dresse comme lors de ses combats passés. Il toise l'assistance. Il ne dit mot, semble presque empiété. Les gorges royales et papales se nouent lorsqu'il est installé et attaché contre le poteau principal du bûcher. Lui ne les quitte pas des yeux. D'un bleu acier à faire détourner même le regard des anges. Ces derniers parcourent la tribune officielle comme pour prendre le pouls d'une situation attendue depuis longtemps. Oh, il va mourir, il le sait. Plus de recours, Le Seigneur sera bientôt son seul juge. » Calmement, il refuse de se faire couvrir les yeux. Il repousse gentiment les assistants du bourreau en leur adressant un faible sourire qui se perd entre les poils de sa moustache et ceux de sa barbe. Sa sagesse saute aux yeux de tous. Le destin de cet homme en fait déjà un héros. La mort qui l'attend ne lui fait pas peur. Lui qui a vu nombre de ses amis et compagnons d'armes mourir sous les coups des musulmans en Terre Sainte. C'est là qu'il espérait mourir aussi. Et Dieu en a voulu autrement. Qu'il en soit ainsi. D'un geste de la main, Philippe ordonne au bourreau d'allumer le bûcher. Le petit bois disposé en contrebas des plus grosses bûches ne tarde pas à prendre au contact des torches. Les poings serrés et les yeux maintenant tournés vers le ciel, de Mollet patiente. Ses jambes, fines, fatiguées, attendent le châtiment. Son esprit aussi espère le bon moment. Il est encore trop tôt pour agir. Il doit être en communion avant d'envisager la suite. Alors, il se plonge dans les méandres de ses souvenirs parfois lointains. Il se retrouve au cœur des murailles de Jérusalem, la croix rouge dans le dos. Il se revoit tailler en pièces des sarrasins, défendre les murailles et éviter les flèches et les attaques. Il semble voler sur son cheval noir, et le voilà maintenant à Saint-Jean-d'Acre, chevauchant sur les quais et haranguant ses compagnons. Là-bas, il supervise de nouveau le chargement du trésor du temple, l'une de ses caisses contenant les secrets les plus impies du christianisme. Toute la richesse de l'ordre vient de là, et le fait de passer pour les créanciers de l'Europe entière n'a toujours été qu'une couverture. Alors que les flammes commencent doucement à lécher la plante de ses pieds et de ses mollets, la douleur qui s'installe n'a rien de divine. De Mollet, les yeux fermés, se rappelle avec joie les grands banquets et les célébrations de victoire. Son esprit qui vagabonde oublie les défaites, les blessures, les décisions difficiles. Il repense aussi à son plan destiné aux ennemis qui l'ont fait tomber et qui, les yeux pleins de satisfaction, le regardent maintenant mourir. La douleur augmente, trouble déjà l'esprit de sage qui est le sien. Alors, il sent que c'est le bon moment. Il ouvre les yeux, gonfle sa poitrine d'air une dernière fois. Et alors que le brasier l'entoure tout entier, il hurle à la tribune. « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. » Maudit, 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 tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Voilà. Voilà, il les a frappés de malédiction et a convoqué pour ce faire les esprits les plus malins et les moins angéliques du ciel. Le roi, le pape et le garde des sceaux, terrifiés par cette voix d'outre-tombe, tout droit sortie des flammes, ne prennent pas la menace au sérieux. Pourtant, le dernier grand maître de l'ordre du Temple vient de jeter son opprobre sur le destin de la couronne et sur celui de la France. Le mauvais sort, lui, s'est déjà agrippé à la coiffe papale. Notre histoire commence le 12 octobre 1307. Nous sommes à Paris, tout près de la cathédrale Notre-Dame. Déjà, la grande dame impose sur la capitale le poids du spirituel et la puissance de l'Église. Un convoi d'importance vient d'arriver sur l'île de la Cité et le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Mollet, s'avance à sa tête. Il est accompagné d'une suite considérable, faite de chevaliers à pied et à cheval. Ils apportent des présents, des coffres, remplis de bijoux et de parures. Tous, en tenue de deuil, ils viennent assister à l'enterrement de la belle-sœur du roi de France. De Mollet, comme à son habitude, n'arrive pas les mains vides et même si la couronne lui dote une somme qui dépasse l'entendement, il cherche à pacifier des relations qui ne sont pas au beau fixe. Voilà qu'il entend des murmures depuis quelques mois. Visiblement, Philippe IV, roi de France, réunit des témoignages contre l'ordre du Temple, son institution. Voilà une situation qui ne dit rien qui vaille au vieil homme. Supprimer son créancier le plus important, c'est l'assurance de ne jamais avoir à payer ses dettes. L'expérience, si c'est la qualité qu'on attribue gentiment à quelqu'un pour lui signifier qu'il est vieux, lui a néanmoins permis de jouer au renard quand il le fallait. Hors de question de laisser croire à Philippe qu'il est au courant de quelque chose. Son premier mouvement sur l'échiquier sera de jouer à l'ignorant. Et puis, quel roi puisse-t-il être aussi agressif que celui de France ? Oserait l'arrêter, lui, le grand maître qui dépend du pape ? Il y a peu de chance. Il est donc plutôt serein, le vieux Jacques de Molay. Les bras chargés de cadeaux en tout genre, y compris un dromadaire ramené d'Orient, il bombe le torse. Le trésorier du royaume, c'est lui. Faites place à la caisse. Et bientôt, il va forcer le roi et son insupportable garde des sceaux à payer leur dû. Patience est mère de sûreté, donc pour le moment, il faut jouer la carte de la prudence. Ainsi, la réception que la couronne a organisée pour son arrivée ne déclenche chez lui aucune méfiance. Faste, sourire et honneur faits à sa personne sont au rendez-vous. Même ce rat de Nogaret, plus proche conseiller du roi, semble contraint de lui adresser un sourire carnassier. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, et de Molay, rassuré, s'endort tranquillement au sein de la Templerie de Paris. Mais la nuit, qu'on dit porteuse de conseils, peut aussi être le théâtre des pires manigances. Nogaret et Philippe l'ont utilisé à bon escient, utilisant l'obscurité pour mettre en place leur plan diabolique. Face à l'impossibilité de rembourser leurs dettes et le refus du temple de leur prêter de nouveaux deniers, une seule solution s'impose. Il faut réduire en cendres l'ordre. Pourtant, le plus puissant entre la couronne et son ennemi n'est pas celui que vous croyez. Non, le roi est ruiné, alors que les Templiers disposent de réseaux surpuissants et d'alliés de poids dans toute l'Europe. Le royaume d'Aragon, par exemple, à l'époque, ce n'est pas de la rigolade. Oui, mais Philippe n'est pas connu pour faire dans la dentelle. Il frappe au cœur quand il perçoit une faille. Cet amoureux de la chasse est aussi redoutable face à un sanglier que face à ses ennemis. Voilà quelques mois déjà qu'il échafaude un plan redoutable. La première chose a été de soudoyer quelques Templiers renvoyés de l'ordre ou en désaccord avec lui et de leur faire avouer tout un lot de crimes. Crachat sur la croix, actes sexuels entre eux, blasphème, reniement du Christ. Réunir des preuves afin de provoquer un scandale assez puissant pour les renverser. Philippe n'est pas idiot. Il sait bien que ses soldats de Dieu ont le soutien du pape Clément, et celui de royaume en capacité de chatouiller la France, si elle se permet de toucher à l'ordre. Il faut donc des chefs d'accusation assez forts pour provoquer le reniement des alliés du Temple. Dans le pays, tout s'est mis en place en sous-main via des missives secrètes et des ordres murmurés. Tout est prêt pour demain, et la déflagration attendue va très certainement secouer l'Europe entière. Contrairement au maître du Temple, la royale tête ne trouve pas le sommeil cette nuit-là. Le soleil qui se lève ce 13 octobre de l'an 1307 est teinté de rouge. Fait exceptionnel dans toute la France, baillis, sénéchaux et forces de l'ordre ont reçu le même ordre, mettre sous les verrous les Templiers dépendant de leur juridiction, sans exception. De Molay se réveille ce matin-là avec des épées sous la gorge, tout comme les membres de sa suite. Direction, la case prison. Il a eu tort de croire que Philippe allait avoir quelques scrupules et barrières. Des limites, celui-là n'en a aucune. Le pape, en premier lieu, fait mine d'être contre cette idée, écrit au roi pour signaler son indignation devant ces arrestations en masse. Le pape est le seul à en avoir le droit. Il ne va cependant rien faire de plus pour entraver le processus. Sur l'entièreté du territoire, des centaines de membres de l'ordre sont mis sous les verrous et 138 sont interrogés et donc torturés. Parmi eux, ils sont nombreux à avouer des choses plus ou moins graves. De la sodomie à l'idolâtrie du diable, ils fournissent au roi de quoi monter des bûchers. Stupéfaction totale lorsque soumis à la torture, le grand maître avoue aussi un reniement et des crachats sur la croix. Tous ses alliés se dérobent alors, du pape au roi d'Angleterre en passant par celui d'Aragon. Et pour Philippe, c'est un triomphe. Jouant la carte de la prudence, le pape décide d'envoyer deux cardinaux rencontrer le vieux Jacques après ses premiers aveux. Devant eux, il se rétracte, enjoint tous les templiers à faire de même. La réaction du pape est immédiate. Suspension de la procédure. Cependant, le roi décide de garder enfermés les soldats du Christ. Un an plus tard, de Molay revient à ses aveux. Lors de sa comparution devant un tribunal extraordinaire, quelques mois après ce nouveau rebondissement, il demande qu'on lui fournisse un avocat pour se défendre ou que ce soit le pape qui l'interroge. Personne n'accède à cette requête. Le grand maître déclare que les commanditaires de cette affaire sont des pervers et qu'on devrait leur couper la tête à la manière des Sarrasins et des Tartares. Vous l'imaginez bien, pas de quoi arranger la situation. Depuis près de 5 ans en prison, il est enfin jugé avec certains de ses subordonnés. Revenant sur ses aveux et clamant l'innocence de l'ordre tout entier, il est condamné à mort pour relapse, c'est-à-dire pour être retombé dans l'hérésie. À l'époque, revenir sur des crimes avoués est fatal. La suite, vous la connaissez. Bûcher, malédiction et mort. Mais alors que les Templiers s'éteignent progressivement, le mauvais sort proféré par la dernière des grandes figures de l'ordre va-t-il se réaliser? Eh bien, vous allez bientôt le découvrir, car la magie noire et les mauvaises intentions ont dans cette affaire fait des ravages.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous relate l'heure âge d'un mystère de l'histoire de France parmi les plus nébuleux qui soient, celui des rois maudits. Alors que les Templiers croupissent en prison, ont été brûlés sur des bûchers dressés dans toute la France, leur grand maître vient en mourant de maudire la couronne de France et le pape. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette menace pour les deux institutions? N'était-ce qu'un feu de paille ou... Ou bien le roi est-il désormais marqué du sceau du diable? Peu de temps avant le procès des Templiers, et donc celui de De Molay, les bruits du roi Philippe, les femmes de ses 3 fils donc, sont accusées d'adultère et emprisonnées. En réalité, c'est un coup monté de la part de la fille du souverain, Isabelle. Cette dernière n'est autre que la reine d'Angleterre et, nous le verrons un peu plus tard, cela aura son importance. En tous les cas, exilées au sein de différents couvents, les 3 belles filles du roi empêcheront leur mari d'avoir des héritiers mâles. À terme, ce sera la catastrophe pour la lignée. 40 jours après l'exécution publique et la malédiction proférée par De Molay, le pape Clément V tombe subitement malade. Atteint de fièvre aussi forte qu'inhabituelle, il s'éteint sans jamais pouvoir se remettre. Dans les jours qui suivent, le garde des Sceaux est tué à l'aide d'une bougie empoisonnée par une personne de l'entourage royal. Philippe, qui perd son premier conseiller en même temps que son ministre, est accablé. Cette malédiction lui torture l'esprit. Et si finalement De Molay avait jeté cette dernière parole avec sérieux et préparation? En quelques mois, les 2 premiers sur la liste ont péri. Il n'en reste désormais qu'un seul, lui, le roi de France. Un jour de chasse d'automne 1314, le 4 novembre, Philippe est victime d'une chute de cheval. Il est persuadé d'avoir aperçu un cerf d'un blanc immaculé et sa monture, l'entraînant dans un galop sans contrôle, termine sa course en le jetant en contrebas d'un fossé. Résultat, une blessure à la jambe qui semble à première vue sans gravité. Mais le principal souci apparaît lorsqu'on souhaite relever le roi. Il éprouve, selon les mots de l'époque, un saisissement subi avec l'impossibilité de prononcer une parole. Il semblerait que la figure royale ait été victime d'un AVC, soit avant, soit à cause de sa chute de cheval. Vous l'imaginez bien, à l'époque, les neurologues n'existent pas. C'est tout juste si on sait que le problème est cérébral. Philippe est donc transporté à Fontainebleau, du lieu de sa chute dans l'Oise. Un long trajet qui va l'épuiser plus qu'il n'en faut. Malgré des soins et une attention constante des médecins qui prescrivent ce qu'ils peuvent, des lavements et des saignements, rien n'y fait. Ils ne retrouvent pas la parole. Alors vous allez me dire, des saignements à quelqu'un de faible, c'est pas très malin. Et vous avez parfaitement raison. Mais à l'époque, on ne connaît que ça. Et on estime que renouveler le sang est une bonne thérapie. Philippe, comme c'était prévisible, finit par mourir le 29 novembre 1314. Un voile tombe alors sur le palais royal du Louvre. Personne n'a oublié les menaces du grand maître. Et maintenant, elles se sont toutes réalisées. Les trois hommes sont déjà morts. Mais ce n'est pas fini. Il a maudit les 13 générations suivantes. Au moment où le fils aîné du roi Louis X monte sur le trône, tout le monde retient son souffle. Rapidement, la cour remarque que le nouveau souverain n'est pas digne de son rang. Il est empoté, indécis, tout à fait naïf et partial. Le tableau que je vous dresse n'est pas très reluisant, mais c'est parce que déjà s'activent en coulisses les Valois. Cette branche familiale, composée de cousins, cherche déjà tout doucement à prendre le contrôle des affaires de l'État. Le deuxième problème, c'est que le roi est marié à une femme qui, comme je vous l'ai dit, est accusée d'adultère et croupit dans un couvent ressemblant plus à une prison qu'à une maison de Dieu. Pour pouvoir se remarier, il doit faire annuler sa première union. Et ce n'est pas si facile. Le roi envoie un proche rencontrer la reine, afin de lui faire dire que leur mariage n'a jamais été consommé et que sa fille est donc illégitime. Elle refuse. Et cela bloque les projets de remariage de Louis qui fulminent. Mais le poids de l'enfermement et les pressions ont raison de la reine prisonnière. Elle accepte, espérant une sortie rapide. Malheureusement, elle est étranglée dans sa cellule par un proche des Valois. Le roi a donc le champ libre pour épouser une princesse venue de Hongrie, dont il est tombé éperdument amoureux. Son frère, qui s'appelle Philippe, comme leur père, décide lui aussi de libérer sa femme, également accusée d'adultère et enfermée. La nouvelle femme de Louis est enceinte, et alors que la malédiction semble conjurée, le roi succombe subitement. Il vient d'être empoisonné. C'est la catastrophe à la cour, qui change ainsi de roi pour la troisième fois en moins de 10 ans. Philippe, le frère du défunt Louis, est en guerre contre les Valois pour assurer la régence du royaume, en attendant de savoir si la reine porte un fils ou une fille. Certains décident par ailleurs de pousser pour que la première fille de Louis monte sur le trône. Rapidement, les principes de la loi salique sont adoptés. Impossible pour une femme de détenir le pouvoir. Macho les nobles du Moyen-Âge ? Mais non, si peu. Complotant depuis des semaines, Philippe, l'oncle du bébé à naître, réussit à prendre le pouvoir de régence et quelques mois plus tard, la reine donne naissance à un fils, le tout jeune roi Jean. Mais certains cercles de la cour ne sont pas dupes. Le nouveau-né est maintenant le seul obstacle entre Philippe et le trône. On fait procéder à un échange de nourrissons et celui que l'on prend pour le roi est aussitôt empoisonné. Le véritable Jean, lui, est exfiltré et élevé comme n'importe qui, sans que personne ne le sache jamais. Philippe V est donc maintenant le nouveau roi de France. Certes, il est certainement le commanditaire de cet empoisonnement, mais sans preuve directe. Personne n'est en mesure de le confronter à cette atrocité. Puisque sa femme est libérée, il espère donner un héritier mâle au pays. Il n'en aura pas le temps. Il meurt lui aussi de manière prématurée et sans descendance, atteint de fièvre et de dysenterie. Il est emporté dans la tombe, âgé d'à peine 29 ans. Voilà donc que la couronne, qui plie de plus en plus sous le poids de la malédiction, arrive sur la tête du plus jeune membre de la fratrie. Il devient à son tour roi, sous le nom de Charles IV. Les tensions entre le roi Charles et l'Angleterre, dont la sœur est la reine, commencent à devenir explosives. Le roi d'Angleterre est destitué au bénéfice de son fils, sur lequel sa mère a de l'emprise. Elle ordonne même l'assassinat de son mari emprisonné. En France, les intrigues à la cour, les meurtres et tentatives de meurtre sont légion. En toile de fond, la malédiction de Jacques de Molay est déjà loin, certes, mais certains esprits ne peuvent s'empêcher d'y penser. Depuis son décès, la France, pense-t-il, va de mal en pis. Seulement quelques esprits à la marge y voient encore une coïncidence. Bientôt, le roi de France, pourtant jeune et plein de vigueur, meurt lui aussi. La branche de Philippe IV s'éteint sans aucun héritier mâle. C'est un drame pour le pays, la fin de la branche des Capétiens qui existe depuis des siècles. C'est aussi la porte ouverte à toutes les manipulations des autres branches de la famille en concurrence pour prendre le pouvoir. L'instabilité qui règne à la cour se répercute sur le territoire et sur les affaires étrangères de la France. Tapis dans l'ombre, l'Angleterre, elle, va bientôt sortir du bois. Avant de mourir, le roi Charles promet la couronne à Philippe de Valois, encore un Philippe, si sa femme enceinte donne naissance à une fille, la régence s'il s'agit d'un fils. Les derniers partisans des Capétiens sont désespérés à l'annonce de la naissance d'une fille. La malédiction, elle, a encore frappé. Le nouveau roi Philippe VI, oui, encore un, hérite d'une situation particulièrement difficile. Les tensions avec l'Angleterre sont vives. Le jeune roi du pays voisin est incité par certains à réclamer la couronne de France qu'il mériterait via sa mère. En effet, elle est la dernière descendante de la branche de Philippe, celui par qui la malédiction est arrivée. C'est lui le roi qui a fait brûler les Templiers. Les Valois, nouvellement sur le trône, refusent bien entendu cette éventualité. La guerre, elle, devient inévitable. Le conflit qui s'ouvre est pour la France celui d'une période des plus troublées. L'Angleterre progresse rapidement, s'installe sur la côte atlantique et lance des raids. Ni Philippe VI, ni son fils qui lui succède, n'arriveront à prendre le dessus, et pire encore, feront preuve d'une incompétence crasse. Bientôt, le roi de France est capturé par ses ennemis alors qu'il était en nette supériorité numérique. Ainsi, durant 116 ans, les deux nations vont se déchirer. Il y aura parfois des pauses, puis des reprises toujours plus sanglantes. Ce n'est qu'au milieu du XVe siècle que l'arrivée d'une pucelle aux visions troublantes va inverser la donne. Son nom ? Vous la connaissez. Jeanne d'Arc. Et grâce à elle, Charles VII, celui qu'on appelait le petit roi de Bourges, va retrouver le trône de France. Le bilan de ce conflit hors norme, jamais vu dans l'histoire, est difficilement quantifiable, tant économiquement qu'en termes de vie humaine. S'achève ainsi l'histoire aussi rocambolesque que retentissante des rois maudits. Meurtre, empoisonnement, malédiction et fin de dynastie. Rien de tout ce que ces souverains et courtisans ont traversé ne semble rationnel. Il reste cependant, comme à notre habitude, à tenter de démêler le vrai du faux. Quel est le poids de la légende dans cette version des faits ? L'histoire est-elle toujours au rendez-vous ? Certains esprits littéraires se sont-ils saisis de l'affaire pour broder et enrober un conte, certes, haut en couleur, mais peut-être éloigné de la vérité ?
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une saga implacable, celle des rois maudits. Elle fut lancée à la suite d'une malédiction qui frappa de son courroux la couronne de France. En moins d'un an, le pape et le roi responsables de la condamnation des Templiers sont morts dans des circonstances pour le moins mystérieuses. Pire encore, alors qu'il a trois héritiers mâles, Philippe IV n'aura jamais de petit-fils. À la mort de son dernier fils, le troisième à monter sur le trône, c'est la fin de la lignée. Le royaume sera alors plongé dans un conflit qui durera plus d'un siècle, la fameuse guerre de Cent Ans. Mais alors, cette succession de catastrophes est-elle marquée du sceau de l'ordre des Templiers ? Est-il décemment possible d'imaginer qu'une malédiction lancée au cœur d'un brasier puisse avoir un impact de la sorte sur le destin d'un royaume tout entier ? Nous allons tenter de percer le mystère. Nous sommes le 20 janvier 1977, il est 22h30. Le bureau de la maison bourgeoise au crépi blanc est éclairé par une faiblarde lueur de lampe d'appoint. La nuit, froide et instable au dehors, est des plus inspirantes pour l'écrivain qui termine aujourd'hui son œuvre. Les volets des pièces de l'étage, mal attachés, claquent et les branches nues du pommier entre la maison et le portail dansent dans l'obscurité. L'homme se lève de sa chaise, satisfait. Il lui reste le point final à poser sur la feuille et enfin, le septième et dernier tome sera terminé. Repoussant le fatidique moment de l'achèvement, il va se servir un verre de cognac. Il le savoure, regarde la lune se cacher derrière les nuages. Il pense à ses Templiers, aux Valois, et à toutes les pages qu'il a retranscrites presque dans un état second. Enfin, et après un deuxième verre, il se rassoit sur son fauteuil en velours rouge et se saisit de sa plume. Doucement, il dépose son dernier point et a la sensation de respirer, enfin. L'homme satisfait de son travail en ce soir d'hiver s'appelle Maurice Druon. Cet ancien résistant est l'auteur des paroles du célèbre Chant des Partisans. Depuis 1955, entouré d'une équipe de plusieurs collaborateurs, il rédige cette saga sur les rois maudits. Voilà déjà 4 ans qu'une adaptation à la télévision des premiers tomes lui a apporté une forme de célébrité qu'il ne quittera plus. Ah, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette suite romanesque a un succès considérable. Attendez une minute. Vous l'avez entendu comme moi, on parle bien de romanesque. Quoi, cela voudrait-il dire que... Mais non, c'est impossible. Toute cette histoire que je viens de vous raconter aurait été romancée. Eh bien oui. Oui, aussi fou que cela puisse paraître, les légendes qui concernent les fameux rois maudits découlent toutes de ces romans de Maurice Druon. Comme souvent... L'histoire et la véracité qui l'accompagnent se sont effacées face au bouclier allégorique de la légende. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout a été inventé, loin de là. Les événements qui y sont relatés, en revanche, ont été imagés, décorés, romancés en somme. L'auteur et ses collaborateurs ont pris plaisir à jouer avec les événements de l'histoire et à les enrober de sensationnalisme, la spécialité de Druon. Parcourons ensemble, si vous le voulez bien, les choses à remettre en perspective dans cette œuvre hallucinante de 7 tomes et de plusieurs milliers de pages. Ciblons tout d'abord le commencement de cette affaire des rois maudits. Vous vous souvenez ? La malédiction de Jacques de Molay lancée au visage du roi, du pape et du garde des Sceaux. Eh bien, visiblement, la légende est belle, mais l'histoire, elle, est tout autre. Un clerc royal présent à Paris, au moment du bûcher, assiste à l'exécution du grand maître du temple. Il note ceci. Le maître qui vit le feu près s'est dépouillé immédiatement sans peur et se mit tout nu en sa chemise. Il ne trembla à aucun moment, bien qu'on le tire et bouscule. Ils l'ont pris pour le lier au poteau et lui, souriant et joyeux, se laisse faire. Il lui attache les mains, mais il leur dit « Seigneur au moins !» Laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison. » On lui a accordé sa requête. Et la mort le prit si doucement que chacun s'en émerveilla. Un autre Parisien présent sur les lieux rapporte que les ossements restants dans la cendre sont prélevés dans la nuit afin d'être placés en sûreté dans un lieu saint. Pour autant, il n'évoque jamais non plus une quelconque malédiction proférée. Mieux encore, le garde des Sceaux, lui aussi frappé du mauvais sort, est en réalité déjà mort depuis quelques mois et n'est donc pas là. Alors quoi ? Tout aurait été inventé par Maurice Druon lors de sa rédaction des Rois maudits ? Pas tout à fait. Comme vous le savez, Philippe meurt tragiquement quelques mois après et laisse sa place à son fils aîné. Le destin de la France est alors assuré. Plus puissant royaume de la chrétienté, trois fils pour assurer la pérennité de cette puissance, le destin de la France semble bien assuré. Oui, mais voilà. Les trois descendants meurent les uns après les autres, sans descendance mâle. Le royaume plonge dans la guerre de 100 ans et la dynastie des Capétiens s'éteint au profit de celle des Valois. Comment expliquer une telle série de catastrophes à l'époque du Moyen-Âge de manière rationnelle ? C'est impossible. Le seul moyen d'obtenir une réponse adéquate, c'est de relier ça à un mauvais sort. Mais au cours de la période, c'est plutôt une malédiction lancée par le pape Boniface VIII qui est évoquée, et non celle de Jacques de Molay sur son bûcher. C'est beaucoup plus tard, sous le règne de François Ier, qu'un historien de la cour mentionne celle des Templiers. Les uns après les autres, les historiens reprennent cette histoire et enfin, Maurice Druon lui donnera une aura plus importante encore. Une autre légende populaire rapporte que la 13e génération du roi conduirait à Louis XVI, guillotiné durant la Révolution française. Mais là non plus, le calcul n'est pas bon. Si on calcule bien en prenant l'arbre généalogique des souverains du pays, cela nous emmène aux enfants de Louis XIV, qui, eux, n'ont pas eu de destin maudit, loin de là. Et que dire de leur père ? Le fameux roi Soleil, le plus long règne d'un roi de France. De Charles VIII à François Ier, on peut difficilement dire que les 13 générations suivantes ont toutes été maudites. Mais alors, où se cache la vérité ? Eh bien, au risque de vous décevoir, non, le Moyen-Âge n'a rien à voir avec ce que le XIXe siècle a bien voulu nous en dire. Non, vous n'avez pas affaire à une période où le soleil ne s'est jamais levé, où la crasse et la barbarie ont dominé. Il fut riche, ce moment historique, novateur même. Il pose les bases d'un royaume qui deviendra, à compter de ce qu'on appelle la Renaissance, une superpuissance. Les règnes de Philippe et de ses fils n'ont pas été des catastrophes industrielles. Philippe, par exemple, fait le choix de s'entourer de conseillers issus de l'université, au détriment des nobles, bien nés, mais moins compétents. Lui et ses fils préviennent les guerres intranationales, anticipant la naissance d'un pays unifié. C'est un fait unique à l'époque, que l'on ne retrouve qu'en Angleterre. En bref, nous sommes loin, très loin du portrait dressé par Maurice Druon et ceux qui, avant lui, ont faussement fait parler le grand maître du Temple. Néanmoins, cette saga, si elle n'a pas permis de rapprocher les gens des vérités, donne un nouvel élan à la recherche historique sur la période. Il est là, le véritable héritage des rois maudits, celui d'un catalyseur pour des générations de jeunes ayant grandi entre 1960 et 1980. Éblouis par le portrait dressé d'une époque sombre de l'histoire de France, ils se sont décidés à en faire leur métier. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec l'une des citations les plus célèbres de cet ensemble romanesque que l'on doit à Maurice Druon. Elle est tirée du tome 6, intitulée « Le lys et le lion ». C'est une erreur commune à tous les humains que de croire que leur prochain accorde à leur personne autant d'importance qu'ils lui en attachent eux-mêmes. Les autres oublient vite ce qui nous est arrivé. Et si même ils n'ont pas oublié, leur souvenir ne revêt pas la gravité que nous imaginons. À défaut d'être un étendard de la vérité historiographique, cette saga peut-être est en mesure de nous apporter des réponses sur un thème bien plus grand que celui des rois maudits, celui de la nature humaine. Voilà pour ce récit que j'ai eu l'honneur de vous partager avec la plume de Valjean. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur la première.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.